France Inter, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et l'invité du grand entretien d'Inter ce matin fut candidate à l'élection présidentielle. C'était en 2007, ministre de l'Environnement. Elle est aujourd'hui ambassadrice des pôles. Dialoguez avec elle, 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'application France Inter. Bonjour Ségolène Royal.
Bonjour.
Commençons par le grand débat national qui va démarrer la semaine prochaine et qui est totalement inédit en France, sous cette forme et avec cette ampleur. Vous qui donc, en 2007 précisément, défendiez la démocratie participative pendant votre campagne, ça faisait ricaner à l'époque. Mmh. Y croyez-vous à ce grand débat? Pensez-vous que le débat est une bonne chose sous cette forme et dans le contexte de crise qui secoue aujourd'hui la France?
Oui, ce débat est une bonne chose. Non seulement j'ai défendu la démocratie participative, mais aussi je l'ai mise en application dans la région Poitou-Charentes. Et donc je sais d'expérience que les conditions de ce débat sont absolument cruciales pour sa réussite.
Et donc là, ça va bien se passer, ça va être utile, important. Comment voyez-vous les choses?
Je pense qu'il y a une vraie volonté politique de réussir ce débat. Je me réjouis aussi de voir que dans les sondages, plus de 40% des Français s'apprêtent à y participer. C'est un score très élevé. Il y a une soif de démocratie, une soif de dialogue. Mais si la première condition de la réussite, c'est de mettre sur la table un diagnostic partagé.
Et ça n'est pas le cas.
Ça reste à construire. C'est la première étape de ce débat, c'est faire le diagnostic partagé. Car si l'on passe cette étape, ensuite les débats, je le sais d'expérience, se passent mal. Donc savoir exactement ce que c'est que ce mouvement des Gilets jaunes, le respecter, l'identifier, savoir pourquoi les gens se sont mis en mouvement et considérer que ce mouvement, je vais vous surprendre, que ce mouvement est une chance. Je vais vous dire, on parle souvent de l'urgence climatique en disant c'est la dernière chance, il faut agir maintenant. Je crois que c'est vrai aussi pour l'urgence sociale, sachant qu'aujourd'hui 15 millions de Français vivent à 50 euros près à la fin du mois. Et là, il y a eu un basculement à cause de toute une série de raisons. Et donc, il y a eu une prise de parole qui rappelle ce que disait Stéphane Hessel, vous savez, indignez-vous, et cette indignation est aussi une chance parce que ça peut permettre d'agir avant qu'il ne soit trop tard.
Donc vous ne partagez pas les craintes qui s'expriment ici ou là sur les dérapages éventuels qui pourraient accompagner ce débat. Vous dites que vous faites confiance aux citoyens dans ce moment de réflexion collective.
Ça sert à rien de craindre quelque chose avant qu'il ne se passe. Je crois qu'il faut toujours faire confiance à des initiatives politiques qui sont prises. En tout cas, ça a toujours été ma vision de la politique. Donc ça veut dire, je le répète, qu'il faut absolument respecter ce mouvement, qui n'a rien à voir avec les dérapages de violence ou d'ultra-violence, qui sont totalement condamnables, mais il ne faudrait pas que ces violences occultent les raisons pour lesquelles, notamment, les femmes se sont mises en mouvement. D'ailleurs, quelque chose me frappe, c'est qu'au départ, ce mouvement est le fait des femmes seules, des femmes avec des petites retraites, qui tout d'un coup ont basculé dans la précarité. Aujourd'hui, on ne les voit plus. Les porte-parole, ce sont des hommes sur les plateaux télé. C'est la violence et les casseurs qui ont pris... À peu près, mais c'est vrai que l'origine du mouvement doit être analysée. Il y a à la fois, comme l'ont vu les scientifiques, les démographes, dans des études passionnantes, et puis qu'on voit aussi sur le terrain, que je vois aussi dans ma région Poitou-Charentes, qu'on voit aussi des poches de mobilisation très très fortes qui ont toute une explication. Il y a notamment le rural qui perd ses services publics. Alors les services publics, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Donc c'est une revendication très digne et très forte de dignité. Et il y a aussi le périurbain qui n'est pas choisi par les gens, c'est parce que ça coûte cher d'habiter dans les villes. Et donc, quand il y a eu une taxation de la voiture, plus les 80 km/h, plus la menace de péage urbain, plus les taxes sur l'essence, etc., il y a eu un basculement vers la précarisation parce que pour ces familles, la voiture, c'est la prolongation du domicile.
Deux questions encore, Ségolène Royal, sur ce grand débat. Est-ce qu'on n'est pas, si on prend un tout petit peu de champ, face à un processus constituant, j'ai pas dit une assemblée constituante, mais est-ce que l'ensemble de ces grands débats n'est pas tout simplement en train d'esquisser ce que pourrait être la République de demain ?
Ça serait bien que ça soit le cas, en effet, c'est un très beau défi. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce que nous disons, citoyens ? C'est que entre deux échéances électorales, il y a 5 ans, C'est très long, 5 ans. Et qu'entre ces deux échéances électorales, il faut des respirations démocratiques pour que les citoyens soient associés aux décisions qui les concernent et qu'ils comprennent le sens des réformes qui sont faites. La grande frustration démocratique, c'est quand des décisions sont prises, qu'on prend connaissance sur France Inter, par exemple, ou sur les médias, et que les gens sont surpris, ils ne comprennent pas la logique de ces réformes. Les citoyens ont le droit de comprendre le sens des décisions qui sont prises et non pas une espèce de prosternation pour la réforme sur la réforme, mais pourquoi cette réforme, pourquoi ces décisions, dans quel objectif et quel est le modèle de société, quel est l'idéal de civilisation que nous poursuivons et que chaque décision politique doit englober.
Est-ce qu'on est en train, Ségolène Royal, de sortir doucement de la Ve République? Je vous repose la question d'une autre manière.
Je pense que c'est beaucoup plus simple que cela. Moi, je ne crois pas aux grandes réformes, aux grands jours. En revanche, irriguer la démocratie territoriale, faire confiance aux maires. Les maires, ce sont les premiers corps intermédiaires. Aujourd'hui, ils sont en grande difficulté. Il y a eu, dans le précédent quinquennat, des réformes territoriales, que je décris dans mon livre d'ailleurs, qui sont dramatiques, parce qu'il y a eu des fusions extrêmement brutales entre les régions. Vous voyez, quand on voit par exemple des poches de contestation à Bordeaux, moi ça ne m'étonne pas du tout. Vous avez vidé, parce que Poitiers et Limoges ont été vidés, beaucoup de contestations aussi sur Limoges, ont été déclassées, rétrogradées, et donc une fuite de tout l'encadrement administratif de ces villes qui a dû être transféré sur Bordeaux, d'où une spéculation immobilière, d'où des catégories moyennes et modestes qui ont été chassées du centre-ville et qui ont vu leurs conditions de vie se dégrader. Donc il faut être très vigilant sur la fragilité des territoires, sur le potentiel de ces territoires et faire très attention à ce qui est fait pour que ça soit, que chaque réforme soit un progrès et non pas une régression.
Ségolène Royal, demain une nouvelle mobilisation des Gilets jaunes, acte 9 est annoncé, on verra si le samedi ressemble au précédent. Malgré tout ce qui a été mis sur la table, 10 milliards d'euros pour le dire vite, est-ce que vous comprenez que ces Gilets jaunes continuent à se mobiliser tous les samedis ou est-ce qu'il faut, pensez-vous qu'il faut maintenant arrêter les manifestations et passer à une autre phase, donc celle du débat. Vous comprenez qu'ils continuent?
Oui, je comprends qu'ils continuent.
Pourquoi?
Je comprends qu'ils continuent parce qu'ils se disent que s'ils arrêtent, tout cela n'aura servi à rien. Et il y a aussi, chez les Gilets jaunes, un mouvement de fraternité très fort. Les gens ont commencé à se parler, à vivre ensemble, à vivre cet événement ensemble, notamment dans le rural que j'évoquais tout à l'heure, ou dans le périurbain où les gens ne se parlaient plus. Et tout d'un coup, ils ont pris conscience qu'ils n'étaient pas seuls dans ce sentiment de déclassement et de précarité. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, d'ailleurs. Donc cette prise de parole, elle est bienfaisante. Elle est bienfaisante parce que, comme disait Stéphane Hessel, cette phrase magnifique, si vous n'usez pas de la faculté d'indignation et donc de l'engagement qui va avec, vous perdez une composante essentielle de ce qui fait l'humain.
Et donc, vous voyez de la bienfaisance comme passion première dans le mouvement des Gilets jaunes.
Mais bien sûr, c'est ça qu'il faut regarder. S'il n'y a pas un regard bienveillant sur ce qui s'est passé, sur ce qui se dit de sensé, de crucial, et en plus de c'est la réalité. Puisque quand vous vivez avec une retraite de 1000 euros, qu'est-ce qui vous fait, qui vous continue à vous faire bien vivre, c'est l'État-providence à la française. Ce sont les services publics à la française. C'est le système de retraite, c'est le système de santé qui est exceptionnel, c'est l'école gratuite pour vos enfants. Donc si vous avez le sentiment en plus qu'il y a un recul de l'État et un recul des services publics, à ce moment-là, vous tombez. Donc c'est un appel qui est salutaire et auquel il faut répondre.
Alors parlons maintenant, Ségolène Royal, des élections européennes à ce micro.
Mais bien sûr, avec la condamnation de toutes les violences.
De toutes les violences, d'accord.
Mais je pense que le mouvement peut s'arrêter assez vite si le débat est de qualité et si les citoyens ont le sentiment qu'il y a un diagnostic partagé, qu'ils vont être respectés, qu'ils vont être écoutés et que ça va déboucher sur des décisions.
Alors parlons maintenant des européennes à ce micro, Ségolène Royal. Il y a quelques semaines, vous aviez dit que vous donneriez votre réponse au mois de janvier à la proposition qui vous était faite d'être la tête de liste d'une liste de gauche élargie pour les élections européennes. Alors en janvier, on y est maintenant. Avez-vous pris votre décision et quelle est-elle?
Écoutez, les choses sont assez simples. J'avais posé comme condition pour répondre à l'aimable pression de mes amis de pouvoir structurer et créer une convergence et un rassemblement des écologistes, de la gauche, des démocrates, de la société civile également.
Et
ces conditions ne sont pas remplies, puisqu'un certain nombre de partenaires ont refusé. Et par conséquent, je reprends ma liberté de ne pas être candidate.
Vous ne serez pas candidate.
Voilà.
Vous sortez du jeu de ces européennes.
Oui, mais je reste dans le jeu des européennes, pour reprendre votre expression, au sens où le travail que nous avons commencé à faire, notamment face aux défis qui sont devant nous. Mmh. Et d'ailleurs, je suis désolée que cette union, ce rassemblement ne se fasse pas. On entendait tout à l'heure ce qui se passe en Espagne. Parce que nous avons devant nous des défis absolument considérables. Il y a l'urgence climatique, il y a l'urgence sociale, il y a l'urgence démocratique, il y a la montée des nationalismes. Et voir qu'on n'est pas capable de s'unir au niveau des démocrates, de la gauche et des écologistes, c'est quand même assez désolant. Mais j'espère qu'ils continueront leurs efforts.
Voilà,
continuer leurs efforts.
Vous le disiez, Ségolène Royal, la condition première était de tenter en tout cas de construire le rassemblement de la gauche,
voilà.
Le rassemblement des gauches. Qui a refusé de jouer ce jeu-là? C'est Benoît Hamon, c'est Yannick Jadot, vous les avez eus, vous leur avez parlé. Qui a dit non?
Eh bien écoutez, ce que vous venez de citer, mais qu'ils
prennent... Benoît Hamon, Yannick Jadot.
Je ne veux pas les citer parce que...
Vous pouvez quand même.
Je vais vous dire qu'ils prennent leurs responsabilités. Ils auront, je pense, des comptes à rendre. Car si, au lendemain de des élections européennes, nous avons un chaos au niveau du Parlement européen, une forte montée en puissance des nationalismes, parce qu'il n'y aura pas eu d'offres politiques enthousiasmantes, crédibles... Je pense que ce sera de la responsabilité de ceux qui ont fait passer l'esprit d'appareil politique et les égaux avant... le rassemblement au service d'un idéal et d'une cause.
Mais vous avez parlé à ces gens, Ségolène Royal, ou pas ?
Oui, on a parlé, bien sûr, on leur a parlé, on a eu des échanges avec eux, mais d'ailleurs, c'est leur liberté, ils ont le droit de... Moi, je ne vais pas les critiquer sur le plan personnel, c'est leur choix politique. Mais moi, je considère
ils en seront comptables, c'est ça ce que vous dites.
Je considère que ce choix politique est une faute grave dans le moment dans lequel nous vivons, qui est un moment de basculement. Un moment de basculement vers le pire ou un moment de basculement vers le meilleur. Et quand on a engagé en politique depuis longtemps, au service de valeurs, au service d'action, au service de l'intérêt général, dont ils sont en partie porteurs, on est contraint d'une certaine façon, mais c'est une contrainte positive de mettre en commun, même si on a des différences, cette capacité de créativité, d'action, de défense, et d'offre d'une... Parce que le principal danger, c'est l'abstention. Si en face, il n'y a pas une offre politique attractive, à ce moment-là, il y aura de l'abstention, donc il y aura une montée des extrêmes.
C'est un problème d'ego de la part de ces hommes dont j'ai cité le nom, Yannick Jadot, Benoît Hamon.
Il y a une part d'ego, il y a beaucoup d'ego, ça vient en politique.
C'est pour vous ça en avez un aussi. Bien sûr,
mais c'est pour ça justement que prenant conscience de ce problème d'ego, j'avais dit, mais mon problème, c'est pas d'être le leader d'une liste. Je peux être sur la liste indépendamment. Et aujourd'hui, d'ailleurs, même si je ne serai pas sur une liste européenne, en revanche, je serai présente dans le débat européen parce que je considère que la construction de l'idéal européen, à la fois ce qu'il faut réformer, ce qu'il faut, les bienfaits de l'Europe aussi qu'il faut reconnaître, et en même temps la mutation qu'il faut engager profondément de notre objectif commun, je le disais à l'instant, notamment sur l'urgence climatique, c'est une chance pour l'Europe. L'Europe doit rester le leader du combat climatique parce que c'est comme cela aussi que nous créerons les activités, les emplois nécessaires et que nous redéfinirons aussi une question essentielle pour l'Europe, c'est le partenariat avec l'Afrique.
On va donner la parole aux auditeurs de France Inter. Une dernière question dans cette campagne. Donc, vous ne serez pas tête de liste, vous ne serez sur aucune liste pour ces élections européennes, mais est-ce que vous en soutiendrez une?
C'est possible. Je vais regarder. C'est pour ça que nous allons mettre sur la table, nous allons écrire ce texte qui est le fruit des travaux que nous avons commencé à faire sur qu'est-ce que c'est pour nous qu'un idéal européen, et notamment dans le domaine de l'urgence climatique, de l'urgence sociale et de l'urgence démocratique.
Et vous verrez quelle liste défend le mieux ces valeurs-là.
Exactement,
avant de la
qui sera mis dans le débat public et dont chacun pourra se saisir, discuter. Contester ou récupérer.
Allez, on passe au standard de France Inter. Bernard est en ligne avec nous. Bernard, vous nous appelez de Toulouse, je crois.
Oui, je vous appelle de Toulouse.
Allez,
bonjour,
bienvenue, on vous écoute.
À vous tous. Oui, alors écoutez, Ségolène Royal a déjà répondu en partie, mais je lui pose ma question malgré tout.
Oui.
Pourquoi est-ce que face à cette urgence que vous avez bien décrite, écologique et politique, avec la montée de l'extrême droite, vous ne soutenez pas directement Yannick Jadot ? Alors avant, j'avais cru que vous cherchiez un accord et donc une place. J'ai cru comprendre que vous n'en cherchiez pas. Confirmez-moi que même si vos amis vous le demandent, vous n'en cherchez pas de place. Et ce que je vous demande, madame, c'est montrer l'exemple. Prenez une retraite efficace et désintéressée, vous n'en serez que plus écouté.
Merci Bernard pour cet ensemble de questions que je transmets à Ségolène Royal.
Mais c'est justement ce que je fais, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure.
Vous prenez une retraite.
Je prends du recul par rapport au fait d'être têtu. Mais on me l'a demandé.
Recul, c'est pas retraite.
Au départ, c'était pas mon idée. On venu me solliciter. Donc, je regarde les choses intelligemment et de façon constructive. Donc, j'ai regardé si j'avais, oui ou non, la capacité de rassembler. J'ai fait les gestes pour cela. Voilà. Et cette capacité, cette main tendue n'a pas été saisie. Chacun prend ses responsabilités. Mais en tout cas, sur le débat d'idées, sur l'exigence intellectuelle par rapport à l'offre politique, je resterai très présente avec mes amis qui m'ont sollicité.
On retourne au standard. Michel nous appelle de Tulle.
Oui, bonjour
et bienvenue.
Royal.
Bonjour.
Bonjour. Dites-moi, quel conseil donneriez-vous au gouvernement pour gérer la crise des Gilets jaunes, alors que vous faisiez partie, il y a de nombreuses années, d'un gouvernement qui s'est complètement aplati devant les bonnets rouges? Est-ce que vous pourriez répondre sans trop enfumer vos concitoyens? Merci bien, madame.
Voilà pour cette question venue de Tulle. Ségolène Royal vous répond, Michel.
Mais oui, bien sûr. D'ailleurs, je l'ai donné dès le 5 novembre. J'ai dit tout de suite qu'il fallait retirer la taxe sur les carburants parce qu'elle n'avait rien d'écologiste. Et à partir du moment où vous faites une réforme qui n'est pas comprise par les citoyens et qui utilise des arguments qui ne sont pas exacts, à ce moment-là, cette réforme n'a aucune chance d'aboutir. Et c'est la raison pour laquelle je suis très fière, contrairement à ce que vous dites, d'avoir aussi retiré cette réforme absurde qui avait déclenché la colère des gilets jaunes, et je crois des bonnets rouges, et je crois avoir évité à la France plusieurs mois de blocage des routes par les camions qui auraient entraîné des milliards de coûts à l'économie française.
Retour au standard. François, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour Madame Royal.
On vous écoute.
Je voudrais vous poser une question par rapport à votre petite phrase sur les lycéens de Mantes-la-Jolie qui avaient été mis à genoux et filmés et diffusés sur les réseaux sociaux par des forces de l'ordre. Je voulais savoir si vous persistiez sur cette phrase-là et si oui, est-ce que vous ne seriez pas passé de l'ordre juste à l'ordre autoritaire et humiliant, et est-ce que ça vous ferait pas bizarre de se dire, quand on vous écoute et quand on écoute Monsieur Toubon aujourd'hui, de se dire qu'aujourd'hui, Jacques Toubon est un gauchiste échevelé par rapport à vous.
Merci François pour cette question, Ségolène Royal.
Oui, je comprends.
Ça leur fera une bonne leçon, aviez-vous dit, en substance, et des souvenirs.
Dire, ça leur fera un souvenir, oui,
voilà.
C'est ça. Oui,
assez jeune,
je comprends, je respecte tout à fait votre question, mais je maintiens absolument ce que j'ai dit. D'abord parce que les règles de droit ont été respectées, d'une part, et d'autre part parce que, dans le contexte, si vous le regardez de près, il y avait des risques très importants d'une situation insurrectionnelle dans cette commune, et peut-être que les policiers, en faisant cela, ont sauvé la vie d'un certain nombre de ces jeunes qui, d'ailleurs, tous n'étaient pas lycéens. Alors, c'est vrai, comme je l'ai dit, ils auraient pu être assis au lieu d'être à genoux, mais je crois que quand j'ai dit que ça leur ferait un souvenir, j'ai pas dit que ça leur ferait un bon souvenir, j'ai dit que ça leur ferait un souvenir, c'est-à-dire qu'un certain nombre de ces jeunes, le jour où ils voudraient passer à l'action sur des actes de délinquance, peut-être qu'ils se rappelleront ce qu'ils auront vécu là, et que ça leur redonnera un certain nombre de repères par rapport aux règles de droit.
Les mesures anti-casseurs, les nouvelles annoncées par le gouvernement, vous semblent-elles utiles, nécessaires au rétablissement de l'ordre, ou c'est une surenchère dictée par des impératifs d'actualité, des impératifs médiatiques ?
Je soutiens cette décision, mais je souhaite...
Loi anti-casseurs, fichiers, etc.
Mais je souhaite que ces décisions sur l'ordre public soient accompagnées le plus rapidement possible de décisions aussi fortes sur l'ordre social juste.
Le gouvernement, donc, selon vous, l'exécutif, n'en fait pas trop dans le traitement policier de cette crise?
Il n'en fait pas trop à deux conditions. C'est que d'une part, ils ne mettent pas dans le même sac les casseurs et le mouvement et les citoyens qui ont déclenché cette prise de parole citoyenne des Gilets jaunes. D'une part, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut du respect, de la considération et un bon diagnostic et considérer que c'est une chance quand des citoyens prennent la parole. Et deuxièmement, que, comme je viens de le dire, je le répète parce que c'est très important, que l'ordre public ne remplace pas l'ordre social juste, c'est-à-dire que les mesures de justice sociale et fiscale interviennent aussi vite que les mesures d'ordre public.
Une question de Bernard qui nous vient de Corrèze. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour. De Pompadour, exactement. Cité du Cheval en perdition. Est-ce que Madame Royal est toujours de gauche et, le cas échéant, serait-elle encore socialiste?
Merci Bernard pour cette question. Ségolène Royal vous répond.
Oui, bien sûr, je suis toujours de gauche, au sens où j'ai gardé ma capacité d'indignation et au sens où je pense que la justice sociale est un facteur déterminant de l'efficacité économique et qu'on ne crée pas une croissance économique aux dépens de la justice sociale et aux dépens de la destruction de l'environnement. Donc voilà mon engagement de gauche et mon engagement socialiste. Je ne suis pas membre du Parti Socialiste, je pense que les appareils politiques, et puis j'en ai bien subi aussi les méfaits.
Il est mort, ça y est, là.
Mais non,
pas sophisé, enfin, si vous préférez un synonyme moins rude.
De coup près un peu brutal, mais. Non, mais d'ailleurs, moi, je voudrais dire que l'équipe actuelle autour d'Olivier Faure, qui est à la tête du Parti Socialiste, c'était ceux qui ont le plus compris la logique du rassemblement. Ils ont été capables de s'effacer pour dire, et même je leur avais fait accepter l'idée d'une liste où il y avait un politique, un société civile, un politique ou une politique, ou une société civile. Donc, avec vraiment une capacité d'ouverture et une prise de conscience de la nécessité de ce grand rassemblement autour d'une offre politique positive.
Olivier Faure dit que l'attitude et les propos de Jean-Luc Mélenchon pendant toute cette crise des Gilets jaunes créent des dynamiques qui peuvent conduire, je le cite, à une fusion des rouges et des bruns. Marine Le Pen, elle, a dit effectivement que le mouvement des Gilets jaunes, de son point de vue, avait créé certaines convergences entre le Rassemblement national et la France insoumise. Redoutez-vous que cet axe rouge-brun se mette en place? Le voyez-vous venir ou pas?
Mais moi, je suis. Vous savez, j'ai toujours été pour la politique par la preuve et par l'action. Donc, on n'a rien à redouter si on est à la hauteur des défis qui sont posés.
Ce qui veut dire, voilà, là, sur ce cas d'espèce.
Ça, c'est des considérations idéologiques qui m'échappent un peu. Ce qui est très, très important, c'est d'être capable d'agir et de faire des propositions et de réponses.
Il n'y a pas d'alliance à redouter entre les extrêmes.
Il y a toujours des alliances à redouter, notamment dans les mécanismes de violence et qui étouffent justement la prise de parole démocratique, sensée, construite, authentique, citoyenne. C'est ça qui est grave.
Deux questions rapides pour finir. Martine, sur l'application Inter, si Chantal Jouanneau avait été un homme, aurions-nous eu droit à ce même scandale sur sa rémunération qui a conduit à sa démission du Grand Débat, de l'organisation du Grand Débat?
Je ne sais pas. Peut-être si, quand même. Même s'il faut observer, je voyais hier la publication dans la presse des rémunérations des autres dirigeants des organismes indépendants. Tous les hommes sont payés plus qu'elles. Bon, mais ça ne justifie pas.
Il faut contrôler ces rémunérations ou pas?
Oui, bien sûr.
Surtout que je crois
beaucoup qu'un certain nombre d'actions de ces autorités ou de ces conseils pourraient très bien être exercées dans le cadre des ministères existants et dans le cadre de la grille salariale de la fonction publique.
Un dernier mot, l'écrivain Yann Moix s'est dit, je le cite, incapable d'aimer une femme de 50 ans parce que le corps des femmes de 50 ans n'est pas extraordinaire du tout. Ça vous a choqué, cette phrase, Ségolène Royal, ou il a le droit de désirer qui il veut?
Je me suis dit que si on taxait la bêtise, le sexisme et la misogynie, on pourrait très facilement combler le déficit public.
Ben voilà, on en reste là. Merci Ségolène Royal. Je rappelle le titre de votre livre, Ce que je peux enfin vous dire, chez Fayard. Il paraît que ça marche bien en librairie.
Oui.
Ben voilà, bravo à vous. Et merci d'avoir été au micro de France Inter
merci
ce matin.
À vous.
Il est 8h45, le carrefour du 7-9.